travail au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. Le gouvernement congolais demande aux régies financières de doubler leurs recettes au cours de l'exercice 2013. Parole aux auditeurs, fait le débat aujourd'hui sur cette campagne fiscale initiée par l'autorité avec comme préoccupation principale quel doit être le mécanisme devra permettre à ces régies d'atteindre leurs assignations en évitant la pression fiscale. Notre standard est ouvert, composez le 081 890 63 15 pour participer à cet échange et partage. Et vous avez également la possibilité de nous rejoindre à notre courriel pa@radiocapi.net. Titi Mputu, Sylvain Matundu et Pierre Lamegi réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Gata. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne le professeur Boaboa Kayembe, qui est fiscaliste, qui va nous permettre de planter d'abord les décors par rapport à notre sujet. Et professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, que vous inspire cette demande d'abord du gouvernement congolais aux régies financières de doubler leurs recettes cette année ou dans cet exercice 2013?
Merci beaucoup. Je pense que la demande du gouvernement est tout à fait normale, étant donné le niveau très très bas des recettes budgétaires d'une manière générale. Parce qu'en fait, les régies financières, les grandes, réalisent des recettes d'environ 1 milliard de dollars par an. Mais il faut quand même reconnaître qu'un pays comme la RDC a besoin de recettes beaucoup plus importantes que ça pour pouvoir fonctionner. Et je crois quand même que la matière imposable a suivi, parce que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'activités, disons, minières, beaucoup d'activités, disons, en matière d'immobilier ou en matière bancaire, etc. Et il faut quand même que ce niveau d'activité se reflète dans les recettes qui sont réalisées. Donc, je pense que la demande du gouvernement est tout à fait noble et que les gens devraient mouiller leur chemise pour pouvoir y aller.
Oui, ben, plus d'un s'étonne, d'autant plus que déjà au niveau de la loi financière, si vous voulez mieux, au niveau du budget, il est demandé clairement aux régies financières de réaliser le minimum. Il y a le minimum requis qui est déjà exigé. Au regard des résultats réalisés par certaines régies financières, si je prends par exemple le cas de la DGDA pour cette année, au 31 décembre 2012, la douane a mobilisé 1 326 851 francs congolais, équivalent de 1 milliard par rapport d'ailleurs aux assignations qui leur a été demandées, donc qui tournaient autour des 1 milliard 500 millions. Donc je crois qu'ils étaient pas loin de leur, ils étaient pratiquement près de leurs assignations. Leur demander aujourd'hui de doubler, et d'aucuns se posent la question pour quel compte ces montants doivent être affectés.
Bon, je crois que les assignations, partir des assignations, pour juger l'activité des services du ministère des Finances, ce n'est pas tellement correct. Parce que les assignations peuvent ne pas être sincères. Donc, le budget lui-même des recettes peut ne pas être sincère. Il y a le principe de sincérité du budget. Mais je crois qu'il faut toujours comparer les performances, entre guillemets, des financières par rapport aux charges de l'État, donc aux dépenses que l'État doit faire, aux dépenses de rémunération, aux dépenses d'infrastructure, etc. Il y a un déséquilibre criant entre les recettes qui sont réalisées et le niveau de dépenses attendues par l'État, que l'État doit faire pour notamment la défense nationale, etc. Il y a un déséquilibre criant qui fait que finalement les performances ne se comprennent que peut-être par une mauvaise élaboration du budget, des recettes. Donc, bon, je crois peut-être aussi que les recettes qui sont réalisées sont conformes à la structure administrative mise en place pour les réaliser. Donc, on doit peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière. On doit réviser la structure d'organisation, la structure administrative pour qu'elle puisse fonctionner comme il se doit et atteindre des niveaux. Vous savez, un pays comme la RDC a au bas mot besoin des recettes de 20 milliards de dollars, d'après moi, par an.
Oui, mais alors, est-ce que peut-on pas craindre une pression fiscale?
Vous dites?
Peut-on pas craindre une pression fiscale? Quand on demande trop aux régies financières, est-ce qu'on ne peut pas craindre, on ne peut pas redouter une pression fiscale?
Bon, moi, j'ai toujours pensé que ce n'est pas la pression fiscale qui doit être la solution. J'ai toujours pensé qu'il faut travailler sur deux leviers ou trois leviers. Tout d'abord, mettre en place une bonne organisation qui peut fonctionner, avec des moyens, bien sûr, parce que moyens financiers et autres moyens sont nécessaires. Pour que la situation fiscale fonctionne, il faut aussi travailler sur les assiettes fiscales. Il faut tout faire, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs à la NAPU, pour amener les matières imposables nouvelles, amener des contribuables nouveaux dans le pays. Et il faut aussi travailler sur des activités comme les recherches, les recoupements qui permettent de découvrir les fraudeurs. Donc la pression fiscale, augmenter le taux d'impôt ou des droits de douane, ce n'est pas une solution. Moi, j'ai toujours pensé que... Parce qu'en fait, augmenter le taux d'impôt, ça ne fait qu'exacerber la fraude. J'ai toujours pensé qu'il faut réduire la pression fiscale au niveau de la douane, il faut réduire la pression fiscale au niveau de la DGI, et ce n'est pas en faisant ça qu'on va perdre des recettes. En faisant ça, on va sortir de l'informel, des gens qui étaient dans l'informel. On va sortir de la fraude, des gens qui sont dans la fraude, parce qu'ils sont en train d'éviter les taux très élevés de droits qui sont mis en place.
Mm-hmm.
Je crois que normalement, ce travail-là doit viser, doit viser les fraudeurs, doit viser ceux qui sont dans l'informel, et n'est pas nécessairement visé à alourdir la pression fiscale.
Voilà. Alors, professeur, avant d'accorder la parole aux auditeurs qui attendent, hein, qui se sont fait enregistrer depuis hier pour ce sujet, une toute dernière question par rapport d'ailleurs à un plan stratégique mis en place par la DGDA pour répondre à cette demande du gouvernement. Un plan qui se définit au moins sur quatre axes. Je prends juste le premier qui dit... améliorer le niveau des recettes avec comme sous-axe surveiller les obligations déclaratives et ou des paiements, optimiser les contrôles fiscalo-douaniers en fonction des risques, et troisièmement, renforcer les recouvrements et prévenir les contentieux, et enfin, évaluer les exonérations fiscales et douanières. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce premier axe que propose d'ailleurs la DGDA pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés?
Oui, mais c'est très bien. Je crois que le plan stratégique, il est bon. Améliorer le niveau des recettes, c'est un objectif. Mais maintenant, comment on va le faire? En fait, ce qui est important, c'est de savoir les actions concrètes qu'on va mettre en place pour pouvoir appliquer ce plan. Optimiser le contrôle. Mais on fait le contrôle, mais on sait qu'il y a toujours des collusions entre contribuables et les agents chargés de contrôle.
Mm-hmm.
Comment on va faire pour éviter la collusion? Et également, faire des recouvrements. Recoupement, oui.
Oui, recoupement,
oui. Et recoupement, c'est la bombe atomique en matière de fiscalité, notamment. Mm-hmm. Mais encore faut-il le faire? Encore faut-il avoir un outil informatique pour rechercher ces recoupements et les réputer sur le fait. Et évaluer les exonérations, oui, pourquoi pas. Encore faut-il que qu'on puisse savoir que les exonérations peuvent rapporter des recettes au fisc plutôt que de lui faire perdre des recettes. Mais je crois que l'évaluation n'est pas une mauvaise chose. Je crois que il y a beaucoup de bonnes intentions qui sont exprimées, mais ce qui serait bon, c'est de voir maintenant comment les actions concrètes qu'on met en place pour pouvoir le faire.
081-890-6315 pour participer à ce débat.
Parole aux auditeurs.
Nous commençons avec vous, Freddy. Vous êtes à Kindu et Séraphin, vous êtes à Uvira. Bonjour, Freddy.
Oui, bonjour, Radio Kapi. C'est Freddy Mayenge à partir de Kindu Manema.
Alors, Freddy, merci pour le... oui, allez-y, oui. allez-y.
Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je pense que la mesure prise par le gouvernement, c'est une mesure trop salutaire, une mesure qui traduit d'ailleurs, n'est-ce pas, la bonne volonté de vouloir servir le peuple. Donc, c'est une mesure qu'il faut saluer. Mais toutefois, je ne sais pas ce que le gouvernement a prévu pour que les régies financières puissent doubler des recettes. Parce que je pense que c'est parti d'un certain constat que le gouvernement avait remarqué, parce que il y a belle lettre que nous entendons parler de cadre, stabilité des cadres macroéconomiques, atteinte des points d'achèvement, mais il n'y a pas de changement dans les budgets, n'est-ce pas, dans les budgets nationaux. C'est ainsi que je pense, à partir de cette base-là, le gouvernement a pensé que les régies financières puissent doubler des recettes pour que ça se fasse voir. Mais quant à moi, quelles sont les techniques, comme vous aviez posé des questions? Je pense que parmi les techniques, il faut d'abord réduire les nombres, n'est-ce pas? Sinon, les nombres de taxes et des impôts. Parce qu'il y a un principe fiscal que le professeur qui est en ligne m'avait enseigné. Il a dit que trop d'impôts, c'est l'impôt. Il y a beaucoup de services qui sont sur terrain et qui sont en train de taxer et qui rendent la taxation et l'imposition aussi lourdes, hein, n'est-ce pas, à la population, et ça n'arrive pas. Vous comprenez, monsieur le journaliste, si vous vous mettez d'accord avec moi, s'il est vrai que dans notre pays, nous avons 60 millions d'habitants, il est aussi vrai que si on obligeait à chacun des Congolais de payer $1, par exemple, ça réaliserait seulement pour les habitants 60 millions de dollars. Mais comme il y en a assez, alors les gens se jettent dans l'informel. Mm-hmm. Ça, c'était d'abord la première de technique. Il faut commencer par réduire l'imposition et ainsi de suite. À part ça, je pense que l'imposition, là, je vais seulement m'atteler à l'imposition parce que ça concerne l'imposition. L'imposition a quatre étapes qu'il faut respecter. La constatation, la liquidation, l'ordonnancement et le recouvrement. Qu'est-ce que le gouvernement a constaté? C'est à partir de ce niveau-là. Si on ne constate rien, on ne peut pas vouloir avoir quelque chose comme impôt dans l'assiette fiscale. Il faut constater. Si on n'a pas constaté, il faut créer. Donc, l'autre technique que j'ajoute là, c'est peut-être solliciter ou suggérer au gouvernement de faciliter le climat des affaires. Parce que plus il y a les affaires, plus il y a l'imposition. Et quand on ne constate rien, on n'a rien, on n'a pas d'affaires, on n'a pas d'investisseurs, on va devoir demander quoi auprès de qui, auprès de n'importe quel cultivateur, je pense que ça risque d'être impossible, cette vision du gouvernement. Et la troisième technique que j'ai, nous avons toujours constaté qu'il y a de l'équivoque, sinon de la confusion entre les matières. Vous trouverez par-ci, par-là, il y a la DGRAD qui se dispute une matière imposable avec la DGI, et la DGI qui dit non, ça m'appartient, et il y a ainsi de suite. Donc il faut des lois qui tracent très clairement donc les responsabilités de chacune des régies pour que l'espace soit aéré, et ça va faire entrer, n'est-ce pas, dans l'assiette fiscale, les montants, si ce n'est pas les doubles, même les triples, comme veut bien les gouvernements. Mais ce qui est à souligner, monsieur le journaliste, et ce que j'ai en dernier mot, c'est l'étape du recouvrement. Le recouvrement, c'est l'ensemble des opérations qui ont pour but de faire passer l'argent de l'impôt des poches des contribuables dans les coffres du trésor public. C'est à ce stade-là, hein, les recouvrer, quand ils arrivent réellement, ils touchent, ils récupèrent de l'argent, hein, des poches des contribuables, mais le faire entrer dans le trésor public, c'est ça un problème. Hein? Mmh. Donc, il faut aussi voir comment on peut, n'est-ce pas, baliser les systèmes, hein, baliser l'administration. Donc, nettoyer ce système-là et aux besoins modernisés, comme nous sommes dans la révolution de la modernité, ça doit faire avancer notre pays. Et je m'en vais souligner le dernier point, il faudra que le gouvernant, donc les tenants du pouvoir, puissent se dégager, démissionner dans les affaires commerciales. Par exemple, je m'en vais donner un exemple, si ce sont les tenants du pouvoir, ceux qui ont nommé les agents de recouvrement, n'est-ce pas, ce sont eux qui ont des immeubles. Et quand les agents de recouvrement iront, n'est-ce pas, chercher l'impôt sur les revenus locatifs, est-ce que vous êtes sûr que ces grosses légumes-là seront en mesure, vont accepter
de
donner au trésor public, n'est-ce pas, ce qui lui est dit. Enfin, à mon avis, je pense que ce sont là les techniques qu'il faut pour que le Congo se retrouve. L'argent, il y en a, les contribuables sont là. Il faut seulement diminuer les taxes, il faut que l'on respecte les textes que nous avons.
Oui, Freddy, s'il vous plaît, c'est Freddy, une question de précision. Donc vous partagez l'avis disons des responsables de la DGDA qui pensent d'abord par la promotion du civisme fiscal. Donc il faut que cette année qu'on puisse faire la promotion du civisme fiscal, parce que vous venez d'évoquer le cas des autorités qui détiennent des immeubles, mais quand il faut maintenant payer l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur la concession qu'il occupe, c'est toujours un problème, n'est-ce pas? Vous partagez cet avis, qu'on puisse faire largement la promotion du civisme fiscal.
Oui, je partage l'avis, mais je ne souhaite pas que l'on se limite à la promotion, parce que nous avons tant d'organismes, tant d'ONGD, des sensibilisations, des mobilisations, et rien ne change. Il faut promouvoir le civisme fiscal, et que ça commence par la tête, car les poissons ne commencent à courir que par la tête. Mais il ne faut pas se limiter à ce niveau-là. Il faut un système de contrôle efficace, comme l'a dit le professeur. Si le contrôle n'est pas efficace, s'il y a des connivences entre les recouvreurs et les contrôleurs, je pense qu'on récoltera
rien. Merci beaucoup, Freddy, d'avoir appelé des Kindou. On donne la parole à Séraphin qui a ouvert. Bonjour, Séraphin.
Oui, bonjour, JR, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure Freddy qui a parlé de la réduction de l'imposition et puis de baliser l'administration tout en mettant un accent sur le modernisme. Donc, bref, moderniser l'administration douanière. Vous avez la parole. Est-ce que vous partagez l'avis ou vous avez encore un autre mécanisme devant permettre à ce régie d'atteindre finalement les assignations en évitant la pression fiscale?
Oui, merci une fois de plus de l'opportunité que m'a accordé à passer à cette émission. J'apprécie aussi l'intervention de mon prédécesseur qui vient de passer à tout à l'heure. Mais moi, personnellement, ce que je me demande, faire la tête de ces contrats programmes suffirait pour un gouvernement responsable. C'est là où moi je pose la question. Mais je me pose aussi d'autres questions, de savoir, est-ce notre gouvernement a une bonne politique sur la maximisation des recettes? Moi, personnellement, je constate que c'est non. Je dis non, pourquoi, monsieur JR? Parce que même le prédécesseur, parce que je vous ai dit que j'appuie sur l'intervention, le prédécesseur a eu à le dire. Dans notre pays, il y a vraiment l'absence de bons climats d'affaires. Et c'est cette absence de bons climats d'affaires qui entraîne ou qui conduit même certains opérateurs économiques se réfugier dans le secteur informel. Et vous savez, aujourd'hui, l'économie congolaise repose sur le secteur informel aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans le secteur informel pour éviter certains impôts. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, ça décourage aussi l'initiative individuelle. C'est vrai, il y a un petit effort qui est entrepris par le CPCAI, mais personnellement, je constate que cet effort est encore minime. Pourquoi je dis cet effort est encore minime? Parce que vous savez que le gouvernement devrait, ou la CPCAI devrait normalement focaliser son attention sur la logique du rendement d'échelle croissant. Et si je dis le rendement d'échelle croissant, donc il fallait rabattre sérieusement les taux de position avec l'objectif d'accroître les recettes. Parce que là, les agents qui s'étaient réfugiés dans l'informel chercheront aussi à tout prix à œuvrer dans le formel. Et même les entreprises qui élaborent des bilans, parce que vous serez d'accord avec moi, même les invités qui ont plus que moi, seront aussi d'accord. Dans plusieurs entreprises, que ce soit des entreprises privées, même étatiques, elles élaborent deux bilans. Il y a un bilan qui présente au niveau de la direction des grandes entreprises et il y a aussi un autre bilan propre à l'entreprise. Et lorsqu'ils élaborent deux bilans, c'est avec l'objectif de fuir certains impôts, notamment l'impôt sur le déficit des profits, d'autant plus que les taux sont encore très élevés. Bien sûr, je vous avais dit qu'il y a eu l'effort mené par le CPCAI, par le gouvernement congolais, mais néanmoins la réduction des positions, des postes de bénéfices et profits, des carats à 35%, pour ça c'est encore élevé. Il faudrait assez compris, c'est rabattre même à 25% pour permettre à ces entreprises qui élaborent deux bilans et d'élaborer le seul bilan. Et pratique même qui est à la base d'enrichissement de la direction des grandes entreprises à Kinshasa. Parce que lorsqu'ils arrivent, comme le Vita et le Lure, lorsqu'ils arrivent dans une entreprise, ils contrôlent, ils dénichent quand même à partir des éléments de regroupement. Ils dénichent les entreprises. Mais là, on essaie un peu maintenant d'arranger la merde. Même si l'entreprise avait un bénéfice de 10 000 dollars, lorsqu'on est, on l'a déniché au préalable, non, on cherche un peu à éviter, à collaborer avec l'agent de la direction générale des impôts, de la direction générale des entreprises, plutôt pour chercher une solution palliative. Donc là, l'entreprise lit de l'impôt. Alors, moi, j'aimerais à ce que les gouvernements puissent prendre, donc on puisse focaliser l'attention beaucoup plus sur ce rendement d'échelle croissante, ce remier.
Merci beaucoup, Séraphin. Nous prenons Dieudonné qui est à Likassi, avant de retrouver à nouveau notre invité. Dieudonné, vous êtes à Likassi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, si vous pouvez commencer. Oui, si vous pouvez commencer par éteindre votre poste récepteur, et comme ça on peut bien s'écouter par téléphone. Voilà, Dieudonné, vous êtes en ligne.
Oui, papa.
Oui, allez-y.
Je suis en ligne, oui.
Oui, allez-y.
Bon, la demande du gouvernement pour doubler notre recette, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'on peut louer. À l'écoute, oui.
Oui, allez-y. On vous écoute.
Ah oui, c'est une bonne chose. Mais la question que je me pose, parce que doubler les recettes, c'est bien. Doubler les recettes, c'est bien. Mais ce qu'on va doubler normalement, c'est quoi? Ce sont les taxes et les impôts. Est-ce que cette chose-là, ça ne peut pas être l'objet de flambées de prix peut-être dans l'avenir? Et si vraiment l'État parvenait vraiment à atteindre vraiment son objectif sur la demande, est-ce que lui aussi de son tour, est-ce qu'il va réellement doubler la rémunération de ses agents? Voilà ce que je pouvais poser comme question.
Voilà, merci beaucoup Dieudonné, 081 890 6315 pour participer à ce débat directement.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Parole aux auditeurs.
Professeur Boivoir Kayembe, vous êtes économiste et spécialiste en fiscalité. Vous êtes avec nous, vous avez suivi Freddy, Séraphin, Dieudonné et tant d'autres auditeurs qui ont intervenu tout à l'heure. Professeur, si on peut ramasser rapidement leurs appréhensions, leurs inquiétudes pour répondre. Parce que là, on note que Freddy a parlé de l'objectif de réduire l'imposition, qui pourrait être quand même une mesure qui pourrait aider des régies financières à pouvoir atteindre cet objectif. Il a parlé également du recouvrement et aussi de la modernisation de l'administration au niveau de la douane. Séraphin qui a insisté sur la bonne politique sur la maximisation des recettes, donc il aimerait bien avoir aussi des précisions par rapport à ça. Et Dieudonné craint qu'il y ait flambé des prix par rapport à cette demande. Oui, professeur, vous êtes avec nous? Voilà, le professeur, le temps qu'on le retrouve à nouveau, on prend notre deuxième invité qui était en ligne, Bidjou Kembi Lajos, qui est également économiste. Bidjou, merci, vous venez de nous rejoindre, bonjour.
Bonjour monsieur.
Oui, monsieur Bidjou, vous avez suivi Freddy qui a parlé tout à l'heure de techniques qu'on peut utiliser au niveau des régies financières pour éviter à ce qu'il y ait des pressions fiscales. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à leur réaction?
Ben non, écoutez, je crois que le plus important, c'est par rapport plutôt à ce que vous attendez, à ce que le gouvernement attend des régies financières, des orientations fiscales, peut-être, pour réagir.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on leur a demandé de doubler les recettes. Alors, quel doit être le mécanisme va permettre à ces régies d'atteindre réellement leurs assignations en évitant, bien entendu, la pression fiscale?
Oui, et d'abord, on doit partir du principe selon lequel trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est le principe universel en matière de fiscalité. Mais bon, par rapport à l'objectif qu'il s'assigne, je crois qu'il n'y a pas de recette magique ni de formule préétablie. Mais il faudrait que, pour la RDC, qu'on applique tout simplement les textes de loi et règlements qui existent en cette matière. Mais à cela, il faut ajouter une chose, c'est que les régimes financiers, ou du moins ceux qui dirigent les régimes financiers, il est temps qu'ils puissent améliorer aussi leurs relations entre le contribuable et l'administration fiscale ou parafiscale. Parce que assez souvent, les agents des administrations, de l'administration fiscale partent avec une idée préconçue selon laquelle le contribuable c'est un fraudeur. Et donc, quand on part avec cette idée-là, les relations entre les contribuables et l'administration fiscale ou parafiscale ne peuvent pas être au beau fixe, et cela n'arrange pas les choses pour que les recettes attendues par le gouvernement puissent être améliorées. Ça, c'est de deux. Donc, mais troisièmement aussi, c'est le comportement des agents fiscaux eux-mêmes. Assez souvent, on trouve quand même inacceptable que certains, pas tous bien entendu, certains agents qui travaillent dans les régies financières s'effacent fortune. C'est peut-être trop dire, mais quand on voit un peu la vie qu'ils mènent par rapport à ce qu'ils sont censés avoir comme rémunération, ça n'a pas de sens et ça révolte parfois les contribuables. Et cela ne fait qu'affaiblir notre fiscalité, cela ne fait qu'affaiblir les recettes qui entrent dans le trésor public. Voilà un peu un des éléments qu'il faut pour que nous puissions réellement améliorer les recettes, pour que l'on puisse doubler. Mais on ne peut pas doubler rien que pour le plaisir de doubler. Une tracasserie financière ne peut que faire appliquer le principe selon lequel trop d'impôts tue l'impôt. Je crois que c'est ça
l'élément important.
Alors, oui, l'un des éléments importants.
Voilà, professeur, restez en ligne. Nous allons prendre Jérôme Sekana, qui est aux États-Unis, qui souhaite également intervenir au cours de cette émission. Jérôme Sekana, c'est un confrère qui, au fait, depuis un certain temps, suit des prêts, des questions, des fonds sur la fiscalité. Jérôme, bonjour.
Bonjour, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous abattez. Et au même moment, féliciter les responsables de la DGDA parce que l'année passée, ils ont mobilisé 1 milliard. Donc l'année 2011, 1 milliard, et l'année 2012, 1 350 000 000 de dollars. Donc moi, j'ai 5 propositions, tout en saluant tous ceux qui sont intervenus, et notamment en appuyant ce que disait le professeur Bobo Akayembe. La première des choses que nous devons faire pour doubler les recettes est peut-être aller au-delà, parce que je suis de ceux qui pensent qu'on peut mobiliser jusqu'à 20 milliards de dollars, comme le disait le professeur Bobo Akayembe. Il faut réhabiliter la culture fiscale. Et quand on parle de la réhabilitation de la culture fiscale, il faut que tout le monde paye l'impôt. Nous sommes dans un pays où les décideurs politiques refusent de payer l'impôt. Il vous souviendra sur vos antennes, j'avais battu campagne, nous avons récolté 150 000 signatures pour que tout le monde paye les impôts, notamment les députés et sénateurs. Mais je vous confirme aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, ces gens refusent de payer l'impôt alors qu'ils bouffent le gros du budget. C'est anormal. Il faut franchement que le peuple se mette debout et qu'on aille bousculer ces gens-là pour que tant qu'ils ne payeront pas, ils continueront à se comporter comme des inciviques. Nous n'allons pas avancer. Et ils doivent donner l'exemple pour que le peuple suive. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les contrôles. Depuis qu'on a affecté l'Inspection générale des finances à la présidence de la République, la Cour des comptes aussi ne fait pas correctement aussi son travail. Il n'y a qu'à voir les rapports de révision des comptes il n'y a pas de suivi de ces rapports. On a une certaine complaisance dans le contrôle. Même les redressements fantaisistes qu'on observe au niveau des régies financières, tout en sachant très bien que notre système fiscal est déclaratif et que l'État peut venir par après vérifier sur la véracité des informations données par les contribuables. Mais nous n'avons pas des structures de contrôle très efficaces. Il faut franchement remettre l'Inspection générale des finances au ministère des Finances pour que cette inspection, cet outil de travail puisse devenir efficace. Troisième élément rapidement, améliorer le climat des affaires. Tout le monde le dit. nous devons améliorer le climat des affaires, mais nous sommes dans un pays où les opérateurs économiques sont devenus des machosiques, où ils ont la main mise sur le pouvoir. Et certaines autorités sont dans les poches des opérateurs économiques qui pratiquent ce qu'on appelle le monopole. Aujourd'hui, aucun Congolais, opérateur économique congolais, ne peut aller acheter les chiens et chats à Namibie ou les poulets au niveau du Brésil. Il y a seulement, et les gros, 90% de l'économie se trouve entre les mains des expatriés. Nous fabriquons des milliardaires expatriés alors que les Congolais sont vraiment mis en difficulté et l'État ne les soutient pas. Il faut nécessairement améliorer le climat des affaires en mettant un accent particulier sur les Congolais qui peuvent faire les affaires et éviter que les autorités soient dans les poches de ces opérateurs économiques qui poussent même à faire ce qu'on a vécu dernièrement, les tripatouillages des textes où on a revu les certains taux à la baisse au niveau de la présidence de la République. Quatrième élément. Les réformes, il faut pousser les réformes, notamment au niveau des régies financières comme la DGDA. La DGDA a lancé ce qu'on a appelé la vidéosurveillance. On voyait en direct ce qui se passe à Kasumbalesa, à Matadi, par-ci, par-là. Mais le signal était coupé à cause du contrat AIFES qui a été interrompu. Donc il faut vraiment qu'on pousse les réformes et qu'on arrive à pouvoir comptabiliser en temps réel ce qui se passe et surtout corriger certaines erreurs pour combattre la fraude et la contrebande douanière. Un dernier élément, si vous le permettez rapidement, il faut arrêter au niveau de la DGDA avec la gestion des originaires. Les directeurs doivent être originaires du Katanga, originaires du Bas-Congo. Ça, il faut supprimer parce que ça apporte les trafics d'influence et les responsables au niveau de la DGDA n'ont pas tous les pouvoirs entre leurs mains pour déplacer. Il y a des autorités, des directeurs qui sont devenus des chefs coutumiers, des chefs, des agents.
Oui, Jérôme. Jérôme.
Et arrivent à faire même. Voilà les cinq pistes.
Oui. Vous avez proposé les cinq pistes.
Que nous pouvons suivre pour arriver à relever les défis.
D'accord. Vous avez proposé les cinq pistes, Jérôme. Bah, juste une précision, parce que si nous regardons, nous scrutons de fond à comble la feuille de route pour atteindre l'objectif tel que demandé par le gouvernement. Au niveau de la DGDA particulièrement, il y a quatre axes hein, qu'on a développé dans un plan stratégique, triennal d'ailleurs, qui évoluera sur deux ans, donc de 2013 en 2015. Disons, l'axe 3 dit ceci, il faut lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et le sous-axe de cet axe, au point 3, il est dit développer des outils de traçabilité des transactions et marchandises. Alors, quand vous regardez également cette feuille de route, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ça m'inspire, c'est la modernisation. La traçabilité s'est faite à partir des instruments, des outils de l'information, de la communication. La DGDA se modernise, la DGDA s'informatise, mais ce programme n'est pas encore arrivé à terme. Il faut donner les moyens. La DGDA le fait parfois avec ses propres moyens. Le gouvernement doit mettre la main à la poche pour donner à la DGDA les moyens de sa politique. Mais un autre élément très important qui cadre avec ce que vous dites tout à l'heure là, j'ai suivi tout à l'heure le professeur Bois doit parler de l'investissement. N'oubliez pas que la DGDA, tout comme la DGRA, perd de plus ou moins 30% des recettes chaque mois à cause des exonérations et des exonérations fantaisistes. Donc le professeur Bois, qui est en train de me suivre, doit vraiment faire un effort pour que les guichets uniques qui se trouvent au niveau de la NAPI puissent fonctionner réellement et faire en sorte que les opérateurs économiques qui ont investi par le passé ne puissent pas tricher avec le nouveau code d'investissement. D'ailleurs, qu'il faut corriger parce qu'il y a ceux-là qui importent d'autres marchandises en disant que ce sont des outils de travail pour un investissement alors que ce n'est pas un investissement. On a vu certaines sociétés de télécommunications importer des téléphones portables et faire semblant que mentir que c'était des équipements d'installation. Donc, il faut vraiment qu'on ouvre les yeux et les milliards de francs congolais qui mobilisent la DGDA, par exemple, dites-vous qu'il y a 300 millions qui partent en fumée à cause d'exonérations fantaisistes. Il faut qu'on arrive à arrêter ça.
Merci Jérôme Sekana, merci d'avoir appelé depuis les États-Unis. Hein. À très bientôt. Nous prenons Raphaël qui est à Lubumbashi. Raphaël, bonjour. Raphaël, bonjour.
Dungunga de Lubumbashi.
Voilà, Raphaël, vous avez la parole.
Oui, je voulais vous dire un peu, vous savez, cette mesure que le gouvernement venait de prendre, c'est très bien, mais la première technique qu'il faut revoir, il faut voir d'abord le niveau des agents de tous ces services de l'État. Revoir, parce que le fait que il y a certains agents qui n'ont pas étudié. Vous voyez ce que ça fait. Et ils sont là pour des raisons politiques. Parce qu'ils se trouvent dans un parti politique qui a le pouvoir. Et ils les ont associés maintenant pour travailler. Et c'est pourquoi il y a beaucoup vraiment de détournement de faux. Il y a même un monsieur là qui travaille là au niveau de l'impôt. Il est venu parce que et un oncle qui a un magasin ici à Lubumbashi.
Oui, non, Raphaël, ne versons pas dans les jugements de valeur. Allons droit au but. Quel doit être le mécanisme devant permettre à ces régies d'atteindre ces assignations? Parce que c'est vrai, nous avons cité les cas, par exemple, de la DGDA, et aujourd'hui, à croire le discours du numéro 1 de la DGI, on se rend compte que les régies financières ont, en tout cas, eu à mobiliser autant des recettes. Ils ont eu même à faire des réajustements qui ont été quand même très considérables. Mais aujourd'hui, on leur demande d'aller encore au-delà, c'est-à-dire de doubler. Que cela vous inspire et qu'est-ce que vous proposez concrètement?
C'est pourquoi on va les donner ça. J'aimerais d'abord vous donner un peu l'exemple, le fait que j'avais vécu hier de la part des agents de l'impôt.
Oui,
allez-y. D'abord vous dire, parce que pour augmenter les recettes de doubler, il faut avoir des bons agents. Parce que hier, là, mon oncle avait payé les poches chez un monsieur comme ça, un agent de
la DGA.
Le monsieur là lui avait donné les récits. Après deux ou trois jours, un autre se présente. Il dit non, le monsieur là, il n'a pas déposé l'argent là au niveau de la banque. Pourquoi ça? C'est qu'il faut d'abord améliorer les conditions aussi de travailler. C'est que lorsque les travailleurs seront bien payés, ça va permettre, ça va leur donner du courage, de la motivation, pour qu'ils puissent commencer à prendre de l'argent très bien et les amener au bureau. Parce qu'il y a maintenant, il y a des agents qui commencent à prendre de l'argent auprès des opérateurs économiques.
Voilà, merci beaucoup Raphaël, merci d'avoir apporté cet élément. Nous prenons également Confiance qui est à Kinshasa. Bonjour Confiance.
Bonjour Njate Jambo à tous les occupants de la radio de la paix. Bonjour JR.
Voilà, merci Confiance. Voilà, Confiance, vous avez suivi tout à l'heure vos prédécesseurs. Vous avez sûrement quelques pistes de solutions aussi à nous donner. Quels doivent être, selon vous, les mécanismes devant permettre à ces régies d'atteindre leurs assignations en évitant, bien entendu, la pression fiscale?
De prime abord, je dirais doubler d'abord le nombre de contribuables. Quand on parle de doubler les contributions, il serait mieux de commencer par doubler le nombre de contribuables. Il est normal que l'État élargisse son assiette fiscale pour qu'il puisse se donner le moyen de réaliser sa politique. Mais il est aussi impérieux et il se fait que pour avoir le moyen de la politique, il est aussi obligatoire d'appliquer efficacement sa politique pour arriver à se procurer les moyens. Déjà, le fait de fixer un target, c'est-à-dire l'objectif qu'il faut atteindre, c'est déjà une très bonne chose parce que c'est souvent ça la difficulté. D'une manière synthétique, il faut suivre obligatoirement 5 ou 6 principes. J'irai en disant la fixation du target dans la précision, la fixation du temps pendant lequel on veut atteindre quel but, ou que quel résultat, la vérification et l'évaluation continuelle à petite échéance de l'objectif qu'on s'est assigné, la transparence et la vulgarisation du résultat pour motiver les acteurs à mieux faire, supprimer la fraude et les dérogations, une rémunération correcte aussi des acteurs et primer l'exploit. Donc, il est aussi mieux de se poser la question de savoir avec quelle personne agir pour enflouer les caisses de l'État. Ce n'est pas mal d'exiger aux mandataires et directeurs de l'État financière d'avoir chacun un plan préalablement établi avant leur prise en fonction. Mais encore, c'est surtout les suivre étape par étape pour juger, les juger à l'œuvre. Et pour terminer, je dirais, lorsque l'exécution de ce plan présente des faiblesses, il va falloir blâmer et même sanctionner l'acteur, même jusqu'à le démettre des fonctions s'il est incapable de réaliser le résultat qu'on attend de lui.
081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39 pour participer directement à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Bidiou, Nkembi, Lajos, vous êtes notre invité. Vous avez suivi les uns et les autres, vous avez sûrement un commentaire. Et quelle réponse réservez-vous à toutes ces préoccupations? Monsieur Bidiou? Voilà, on a des petits problèmes avec notre deuxième invité. C'est vrai, on a connu pratiquement les mêmes problèmes avec Wakayembe qui n'est plus en ligne. Mais alors, si vous nous rejoignez, notez que le gouvernement congolais demande aux régies financières de doubler leurs recettes au cours de l'exercice 2013. Alors donc, parole aux auditeurs, on fait les débats aujourd'hui sur cette campagne fiscale initiée par l'autorité, avec comme préoccupation principale quel doit être le mécanisme devra permettre à ces régies d'atteindre leurs assignations en évitant bien entendu la pression fiscale. Nous avons suivi les uns et les autres. Et s'il faudrait résumer par exemple le propos tout à l'heure, l'intervention des Freddy qui parlait de réduire l'imposition, il parlait également de baliser l'administration en mettant un accent sur la facilitation du climat des affaires. Et Jérôme Sekana a même fait cinq propositions. D'abord, la réhabilitation de la culture fiscale. Il faudrait qu'au niveau les autorités qui demandent aux régies qu'elles montrent également l'exemple et que le contrôle soit très bien assuré. Il est revenu également sur l'amélioration des climats des affaires et des réformes qui doivent être opérées et donner les moyens en tout cas suffisants aux responsables des régies financières pour qu'ils travaillent en toute indépendance. Voilà. Nous revenons à vous, Monsieur Bidiou, Kembi, Lajos, vous avez suivi les uns et les autres, je disais tout à l'heure. Quelle est la réponse que vous réservez aux préoccupations des uns et des autres?
Écoutez, principalement par rapport à ce que M. Jérôme a dit, effectivement, je suis d'accord avec lui, je crois que le professeur l'a dit aussi, le problème d'exonération cause un manque à gagner énorme au niveau du trésor public. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut simplement qu'on applique les lois, les textes de loi et règlements qui existent en République démocratique du Congo. La loi dit qu'il n'y a d'exonération que par la loi. Or, aujourd'hui, les différentes exonérations qui sont faites, qui sont accordées tant au niveau de la DGDA qu'au niveau de la DGI, n'obéissent pas aux textes de lois qui sont en vigueur en République démocratique du Congo. C'est un problème important qui provoque l'évasion fiscale, qui provoque la fraude. Au fait, c'est ça, au fait, la fraude fiscale tout à fait organisée. Deuxièmement, il faut retenir une chose. Tant que les agents qui sont commis à mobiliser les recettes ne reçoivent pas ce que la loi ou les textes de loi leur permettent de recevoir, c'est-à-dire notamment la rétrocession des 5% de ce qu'ils ont apporté dans la caisse du trésor public, ils doivent faire des gymnastiques pour qu'on le leur accorde. Ça n'a pas de sens. Parce que lorsqu'ils ont travaillé, lorsqu'ils ont apporté de l'argent, automatiquement, on devait leur rétrocéder
le 5%, les
5% qui leur dit. Et quand on ne le fait pas, ça démotive les agents qui sont sur le terrain. Troisièmement, et c'est ça, je crois, le clou de la chose, la corruption. La mafia, je vous ai dit, je crois, la fois passée, la mafia a pris possession des structures d'État dans notre pays. Et elle s'est installée confortablement. Et comme elle s'est installée confortablement, elle a paralysé l'action de l'État. Elle a paralysé l'autorité de l'État dans toutes ces structures de l'État, notamment les régies financières. Je crois que si on n'arrive pas à résoudre ces trois difficultés que je viens de d'énumérer tout à l'heure,
ça sera difficile.
Sera difficile pour le gouvernement de doubler, ou plutôt de demander au régime financier de doubler les recettes. Mais aussi, il faut avouer que quand le gouvernement demande au régime financier de doubler les recettes, parce que on sait qu'ils ont la capacité de doubler les recettes. Tout ce que l'on présente au niveau du budget, au niveau de la loi des finances, ne sont que des minima. Et on sait pertinemment très bien que les régies financières sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils ont fait ou qu'ils produisent chaque année.
Voilà, nous avons deux autres auditeurs qui sont en ligne, Nathalys et Guetta Kinshasa et Célestin à Kisangani. Bonjour Nathalys.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi notre invité et avant lui, il y a eu quelques auditeurs qui ont émis aussi leurs avis par rapport à cette question. Vous avez la parole, Monsieur Nathalys.
Oui. Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, je voudrais intervenir à deux niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est au niveau du gouvernement. Et puis, le second niveau, c'est au niveau des régies financières. Bon, quant au gouvernement, il se pose un réel problème d'organisation de finances publiques en RDC. Plusieurs sont des ressources de l'État, des taxes, des prélèvements, des impôts qui sont exercés au sein de notre économie, qui en réalité présentent la pression fiscale globale exercée par l'État dans l'économie, mais qui malheureusement n'est pas saisi totalement au niveau des régies financières. Parce que ce n'est pas seulement les régies financières qui prélèvent des ressources à l'économie. Il y a plusieurs structures, notamment l'OCC, RVM, RVA, plusieurs structures qui prélèvent sur les citoyens, qui font des pressions sur les citoyens pour récolter, collecter des ressources. Mais ces ressources ne figurent jamais dans les budgets de l'État. Et le gouvernement ne fait aucun effort pour récupérer tout ce qui est prélèvement. La loi même, la loi de finances publiques, qui devait en réalité présenter qu'est-ce qu'on appelle le prélèvement fiscal, non fiscal, parafiscal, au profit de l'État, n'existe même pas. Au point que chacun essaye de récupérer les ressources de l'État de sa façon pour les gérer soit dans une structure qu'on appelle entreprise, soit dans une autre structure qu'on appelle établissement, et on récupère une petite partie seulement que les régies présentent pour financer les budgets. Ça, c'est en réalité une escroquerie que le gouvernement doit tout faire pour réhabiliter l'État dans ses droits. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect pour les régies, ce n'est pas compréhensible que une structure comme la DGRAD, la DGI et la DGDA qui se battent pour collecter des ressources, mais vous sentez que les traitements qu'on donne à ces gens-là qui rend un service de grande envergure, on sent que ces gens-là vivent dans la misère. Alors qu'en réalité, l'homme politique qui n'a rien fait, qui en réalité, si on regarde l'apport du politique par rapport à la gouvernance dans notre pays, je crois que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, des gens qui se battent pour collecter des ressources et faire en sorte que les pays puissent marcher, ces gens-là vivent dans la misère totale. Ils n'ont pas de revenus qui peuvent leur permettre de bien vivre. Alors que le gouvernement crée des structures parallèles, des structures additionnelles, qui en réalité ne pouvaient pas exister, mais ça existe. Et ça, automatiquement, ça décourage ceux qui travaillent, ceux qui se battent pour collecter des ressources, alors d'où la consommation à la source. Alors, pour ce genre de comportement, il faut que nécessairement les gouvernements, avant de demander aux régies financières de doubler des recettes, ils devraient d'abord commencer à voir comment résoudre les problèmes de ces gens-là qui travaillent pour la collecte de fonds. Parce qu'en réalité, ces gens-là se trouvent toujours vexés au point qu'ils font n'importe quoi sur les terrains.
Voilà.
Et en dehors de cet aspect-là, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les lois qui existent, qui organisent même les régies financières, bénéficient d'une pression politique impossible. D'abord, les lois sont faites d'une manière où les techniciens n'agissent plus. C'est plus les politiques qui commencent à dicter sa façon de voir les choses, alors qu'en réalité, les lois fiscales doivent être édictées par des personnes qui comprennent ce qu'ils doivent faire. Vous comprenez? Voilà, alors, maintenant, nous, oui, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que non seulement l'homme politique agit sur le loi fiscale qui, en principe, devait être travaillée par des techniciens, mais il y a aussi cette histoire de chercher à nommer les DG de l'obédience politique X, Y, Z, qui crée en sorte que les régies financières deviennent dépendantes de pouvoirs politiques.
Oui, Nathalie.
En dehors de tous ces circuits-là, ils devaient travailler, sachant très bien que je dispose d'un pouvoir de contrainte à tout le monde. Jérôme Sétan l'a présenté. Ce n'est pas normal qu'un régie financière ou un responsable des régies financières qui cherche à redresser une situation fiscale chez X ou Y, Z, mais celui-là ayant un pouvoir politique, refuse.
Oui, Nathalie, une question de précision.
Comme cette personne
Nathalie,
sait que...
Nathalie, c'est une question de précision. Vous nous suivez, Nathalie?
Ce n'est pas que c'est clair. Alors, tout ce genre de choses... Vous allez vous rendre compte que la responsabilité ne va revenir qu'au gouvernement. Oui, il faut demander aux régimes financiers de boîte les ressources, mais quid sur les autres prélèvements effectués dans l'économie et quid sur la façon dont on traite les gens
qui travaillent.
Voilà un peu mon intervention.
Merci beaucoup, Nathalie. J'avais une question de relance, mais vous avez déjà pris plus de deux minutes. Merci, Nathalie, d'avoir appelé de Kinshasa. Célestin, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour, monsieur de la radio Kati.
Voilà, vous avez suivi votre prédécesseur. Vous avez également votre commentaire.
Oui, je m'avais donné mes quelques points de vue qui peuvent booster la croissance des recettes de l'État. La première des choses, c'est de dépolitiser les régies financières. C'est-à-dire qu'on rendre les régies financières des régies des experts et non les régies des politiciens. Puisque pour le moment, nous connaissons des agents, nous savons que toutes les régies financières sont largement politisées, à tel point que pour y travailler, il faut être nommé, il faut être membre d'un parti politique. Et on va même à la contre des expériences et des expertises qu'on doit apporter dans ces régies-là. Ça, c'est de 1, 2, 2. Il faudrait qu'on arrive à créer le guichet unique, que toutes les recettes se payent à la banque. Et cela permettra à ce qu'on instaure des mécanismes pour la surveillance de toutes les entrées de la banque. Troisième mécanisme qu'il faut mettre en place, il faut boucher les poches trouées. Les caisses noires, il faut vraiment que le gouvernement arrive à boucher ces caisses-là, ces poches-là, puisque les recettes entrent dans les caisses et sortent pour tomber dans les caisses noires. Il faut qu'on arrive à boucher ces différentes caisses-là. Quatrième chose, il faut combattre la corruption et la fraude, l'évasion fiscale. Donc, mettre tous les mécanismes possibles pour combattre la fraude, combattre l'évasion fiscale. Et aussi, pour terminer, il faudrait que le gouvernement arrive à motiver les percepteurs, les agents percepteurs. Puisque quelqu'un qui perçoit, qui fait rentrer 10 000 dollars dans la caisse de l'État, à la fin du mois, on lui remet 10 000 francs ou 20 000 francs. Prochainement, il se dira, moi aussi je vais chercher à vivre au-dessus de ce qu'on me donne et je vais vivre sur les dos des contribuables. Voilà les quelques mécanismes que je voudrais avancer pour accroître
le reste de l'État. Merci beaucoup, Célestin. Monsieur Bidou, Kembi Lajos, vous êtes notre invité. C'est vrai, on va vous accorder juste la parole pour deux minutes et puis on va continuer juste après les flashs d'information. Monsieur Bidou, vous avez suivi Célestin tout à l'heure. Quel commentaire faites-vous?
Écoutez, c'est vrai que pour ce qui concerne les agents, je crois que j'en ai déjà parlé. Il faut nécessairement que les agents qui sont commis
à collecter les recettes pour le compte du trésor public soit motivé. La motivation des agents est un élément important. Comme on disait quand j'étais encore au Parlement, notre président de l'Ecofin disait « la poule pond par le bec ». C'est-à-dire que lorsque la poule n'est pas bien nourrie, elle ne peut pas donner suffisamment de œufs. Donc de la même manière que l'amélioration des recettes par les régies financières, si ceux qui collectent les recettes ne sont pas motivés, ils ne peuvent pas donner des résultats qu'on attend d'eux. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, je voulais peut-être corriger quand même quelque chose, une erreur qui s'est glissée quelque part là, hein, quand on dit que le problème des lois qui sont faites, qui sont votées, promulguées, c'est l'affaire des hommes politiques. Non, je crois que là, c'est une erreur. Hein. Les lois sont toujours élaborées au départ par les techniciens et le politique donne la forme parce que le politique veille sur l'ordre public. Ça, c'est un élément important que les amis doivent savoir. Donc, je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre nous. Il faut nécessairement que les agents soient motivés. Il faut nécessairement combattre la corruption. Il faut nécessairement que les exonérations qui doivent se faire se fassent conformément à la loi.
Oui, il y a Jérôme qui a proposé également la réhabilitation de la culture fiscale, hein, qui doit être quand même un élément aussi important. Et aussi cette question sur comment améliorer le climat des affaires. Nous avons même suivi en 2012, il y a eu un débat entre la FEC et les gouvernements congolais autour de cette question sur l'amélioration des climats des affaires. Donc, pour Jérôme Sekana, qui est intervenu tout à l'heure, parmi les cinq propositions, donc, il figure également l'amélioration des climats des affaires. Donc, on va revenir à vous, Bidiou, Kembi.
Sinon, j'aurais bien voulu réagir un peu par rapport à cela.
Oui, donc, on revient à vous juste après le flash d'information. C'est pourquoi nous disons, ne quittez pas, restez en ligne. Nous allons reprendre des débats juste après et nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent également nous faire parvenir leurs réactions à notre courriel pa@radiocapi.net ou carrément, s'ils préfèrent intervenir directement, qu'ils composent carrément les 081-890-63-15 pour intervenir. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Tout à l'heure, on était avec vous, Monsieur Bidiou, Kembi Lajos. On parlait de l'intervention de tout à l'heure de Jérôme Sekaman depuis les États-Unis, qui a évoqué la question sur la réhabilitation de la culture fiscale et aussi quelques points autour de l'amélioration des climats des affaires. Et il a terminé par insister sur l'aspect de réforme. Voilà. Vous êtes avec nous, Monsieur Lajos. Quel commentaire faites-vous par rapport à ces proposition de Jérôme Sekana?
Écoutez, en ce qui concerne la réhabilitation de la culture fiscale, bon, c'est un fait, hein, c'est un fait qu'il faudra naturellement matérialiser. Pour ce qui est de l'amélioration du climat des affaires, je crois que on a fait que ça, il y a déjà beaucoup, une batterie de mesures qui ont été prises pour cela. Hein, par exemple, le nouveau code du douanier, l'OADA, l'octroi, en fait le timing qu'il faut pour obtenir le registre de commerce, tout ça c'est une batterie de mesures qui ont été prises, les lois ont été votées au Parlement et promulguées par le chef de l'État. Mais le tout repose sur l'homme. L'homme, c'est l'élément principal. Mais l'homme n'est pas capable d'appliquer, si l'homme n'a pas la volonté d'appliquer les lois telles qu'elles sont votées, telles qu'elles sont rendues, eh bien, nous pouvons vous dire, il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui va évoluer. Parce que Jérôme dit, par exemple, qu'il ne faudra pas que, en ce qui concerne, par exemple, la DGBA ou toutes les régies financières, il ne faudra pas qu'il y ait des originaires. Je crois que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas d'être originaire ou ne pas être originaire. Ouais. Parce que hier, c'était les étrangers par rapport aux, c'est-à-dire que l'homme blanc par rapport aux nationaux, aux Congolais. Mais le vrai problème, ce sont les hommes. Pouvez mettre votre frère, pouvez mettre son maquis, mais s'il n'a pas la volonté de travailler, s'il n'est pas
en mesure de
un homme qui a une idée fixe sur le travail qu'il doit faire, sur le sens de responsabilité, eh bien, nous tomberons toujours dans les mêmes problèmes. Parce que pendant plusieurs années, ceux qui ont mal travaillé au Katanga ne sont pas toujours des Katangais, ceux qui ont mal travaillé au Bakongo n'étaient toujours pas des Bakongo, ceux qui ont mal travaillé au Bandundu n'étaient toujours pas des gens de Bandundu, et ainsi de suite. Donc ça, c'est d'abord l'homme. Le tout repose sur l'homme. La volonté, le sens de responsabilité, parce que peu de gens ont le sens de responsabilité. Il y en a qui croient qu'il faut vite prendre. C'est comme si ce pays ne nous appartenait pas. C'est comme si ce pays appartenait à d'autres et qu'il faut maintenant prendre maintenant et puis parce que bon, il faut partir. La réforme, oui. La réforme est au niveau des structures et au niveau de l'homme. Je reviens toujours à l'homme. La réforme au niveau des structures, ça s'impose. Vous imaginez qu'en République démocratique du Congo, jusqu'ici, vous trouvez simplement le poste douanier de Matadi, de Kinshasa et de Kasumbalé, ça, où il y a les guichets uniques. Mais la République démocratique du Congo, il n'y a pas que ces trois postes d'entrée. Il y a plusieurs postes d'entrée. Beni, Butembo, pour ne citer que cela. Partout, il faut nécessairement qu'on mette les guichets uniques. Mais là encore, la machine ne travaille pas, c'est toujours l'homme qui travaille. Parce qu'à Kasumbalé, ça, je suis certain qu'il y a beaucoup d'argent qui aurait dû entrer dans la caisse de l'État, mais qui n'entre pas.
Échappe.
C'est qui est valable aussi pour Matadi et pour Kinshasa.
Bidiou Kembi reste encore en ligne. Nous allons prendre les tout derniers auditeurs. Il y a Madame Gertrude qui est à Kinshasa et Sylvain est à Bounia. Madame Gertrude, bonjour.
Bonjour à la radio Kati.
Voilà, vous avez la parole, Madame Gertrude.
À tous les auditeurs. Pour répondre à cette question, moi je pense que le travail doit se faire en amont et en aval. En amont, il faut travailler l'animateur fiscal. Il faut que celui-ci soit rémunéré, soit motivé, pour qu'il travaille très bien, pour qu'il ne soit pas inquiété. Pour qu'il y ait des garde-fous. Hein, je voulais parler de ça. Il faut qu'il soit inquiété par les sanctions qui l'attendent. Si jamais il versait dans la corruption. Et en aval, il faut que le travail aille dans le sens de la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale. Il faut qu'il y ait des mesures d'encadrement. Réduire les recettes ne peut pas constituer un exercice délicat pour la RDC. Les animateurs fiscaux le savent. Il suffit d'ouvrir l'œil et réduire l'effort pour que toutes les recettes mobilisées ne changent pas de destination. Aussi, il faut élargir l'assiette fiscale. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Il y a des opérateurs économiques qui exercent sous la dénomination des ONG et ça part ainsi à l'imposition. Les inspecteurs des finances doivent cesser de se compromettre. Ils doivent se mettre au travail. Leur rôle primordial, c'est le contrôle. Dans le contrôle, il y a le contrôle. C'était là ma contribution. Merci.
Merci beaucoup, Gertrude. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs, mais surtout bonjour à votre invité.
Vous venez de suivre Madame Gertrude. Certainement vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire.
Gérard, pratiquement, vos auditeurs ont tout dit. Moi, à ce qui me concerne, pour être un bon pédagogue, je vais dire ceci. L'année passée, vous avez passé la même émission sur la croissance de ou soit, qu'est-ce que je dirais, l'augmentation de la capacité de l'État en termes de ressources.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a fait un bilan de tout ça?
Et ça a donné des résultats que nous pouvons déjà vous citer. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code douanier, et c'était suite à cette émission-là, et au besoin, les gens ont réfléchi, ils avaient proposé également la nomenclature des taxes, qui pourrait sortir d'un moment à l'autre. Il y a quand même des avancées, et notre invité qui est mieux placé, il pourrait revenir sur ces deux aspects.
Bien, dans ces cas-là, laissez-moi vous remercier, puisque politiquement, il y a eu des avancées. Mais si j'ai appelé aujourd'hui, j'ai appelé à ma qualité d'acteur politique. Je suis à l'Ituri. Qu'est-ce que l'Ituri gagne dans tout ce qu'on récolte, dans tous ces régies financières? Je suis désolé de pouvoir dire aux gens et d'interpeller la conscience des gens. Puisque vos auteurs ont parlé de la question de la bonne citoyenneté et celle qui est responsable. Ça n'existe pas à l'Ituri. Les gens sont devenus pratiquement des personnes sans foi qui gèrent le bien de l'État comme si ça leur appartenait. Moi, je lance une sonnette d'alarme pour que les gens arrêtent. Votre invité a tout dit, je ne fais que les remercier, mais là, j'ai profité de votre émission pour interpeller la conscience de ceux qui gèrent les fonds de l'État en Ituri. Merci, monsieur Gérard.
Voilà, merci beaucoup Sylvain. Nous revenons à vous, monsieur Bidiou Kembi Lajos. C'est vrai, il y a madame Gertrude qui a évoqué l'aspect important des choses. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a, quand on parle de l'évasion fiscale, il y a plusieurs aspects à évoquer sur cette question. Il y a des Congolais, au fait, qui sont identifiés dans une entreprise, mais par contre, cette entreprise, c'est une entreprise étrangère qui exerce ici et localement, mais sous étiquette de certains Congolais qui se cachent par là. Et c'est une façon aussi d'échapper à certains fiscs. Hein. Voilà, donc vous êtes l'expert, BDU. Que répondez-vous particulièrement à Madame Gertrude?
Mais écoutez, Madame Gertrude, je crois qu'à partager avec tous ceux qui nous suivent, qui vous suivent, un constat. Ben, écoutez, quand nous parlons de corruption, quand nous parlons des structures mafieuses, c'est aussi ça, ce sont des méthodes de la mafia. Une façon de contourner tout simplement les lois et règlements de la République. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle, mais aussi avec votre dernier correspondant du Turi. C'est vrai, lorsque vous voyez par exemple en 2012, le Katanga a produit 438 milliards 120 millions 735 915 francs congolais, et que le Bakongo ait produit 380 milliards 195 millions 233 863 francs congolais. Mais en retour, qu'est-ce que ces provinces reçoivent? Qu'est-ce que les agents qui ont produit dans cette régie financière, dans ces différentes provinces, qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour pour être motivés davantage, pour que qu'ils puissent peut-être doubler ce qu'ils ont réalisé? Ça, c'est aussi un problème sérieux. Je crois que tant qu'il n'y a pas encore une justice distributive, même à ce niveau-là, comme j'avais dit, la loi dit qu'il faut leur rétrocéder 5% de ce qu'ils ont produit. Mais si vous ne rétrocédez pas, comment voulez-vous qu'ils vous apportent l'année prochaine un peu plus qu'ils aient produit l'année qui s'est écoulée? Je crois que ce sont là les écueils, hein, les écueils qui se trouvent sur le chemin de l'augmentation, l'amélioration de recettes fiscales en République démocratique.
Oui, M. Bidiou, on va terminer avec vous, mais tout en scrutant encore le plan stratégique triennal proposé par la DGDA pour en fait, atteindre ces objectifs, au fait, répondre à la demande du gouvernement congolais. Au fait, le plan stratégique s'inscrit dans 4 axes. Premièrement, améliorer les niveaux des recettes, qui implique surveiller les obligations déclaratives, optimiser les contrôles, renforcer les recouvrements, évaluer les exonérations. Et deuxième axe, promouvoir le civisme fiscal. Troisièmement, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et quatrièmement, promouvoir l'éthique et la bonne gouvernance. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à ces plans?
Ben, je crois que tous ces éléments que vous venez d'indiquer, je les ai développés tout à l'heure. Peut-être que là, il faut dire encore un mot, c'est en ce qui concerne l'éthique fiscale. Bon, hein, c'est un processus, il faudrait commencer parce que, au fait, les lois sont là, les règlements de la République sont là. Mais de quelle manière est-ce qu'on les applique? La bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, c'est le point le plus important. Nous sommes justement à la 40e position en ce qui concerne la matière de bonne gouvernance. Même si on peut dire que non, il y a eu des améliorations, mais on doit continuer, on doit aller davantage vers la perfection. Si on reste dans une auto-satisfaction, ça veut dire que le travail ne se fera jamais et les recettes fiscales de notre pays resteront toujours ce qu'elles sont. Mais bon, le problème aussi, c'est quoi? C'est que ça, c'est l'affaire du gouvernement. Parce que c'est bien d'avoir des recettes fiscales qui sont produites par les régies financières. Mais lorsqu'on le répartit au niveau du budget de l'État, quelle est la part qui est réservée à l'investissement? Parce que si on n'a pas investi en République démocratique du Congo, s'il n'y a pas de nouveaux investissements, il n'y a pas d'industrie,
voilà,
il
n'y
a
monsieur
pas des entreprises qui naissent.
Voilà, merci Monsieur Bidiou. Voilà Monsieur Bidiou, merci et merci pour votre disponibilité de participer à cette émission. Nous disons également merci à vous tous qui avez participé à ce débat. Merci également à Titine Poutou, Sylvain Matundou et Pierrot Elamegi qui ont réalisé cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngakar. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net.
Mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à suivre la conférence hebdomadaire des Nations Unies avec Manoj Mounoubaï, le porte-parole de la MONUSCO.
Si, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue à notre conférence hebdomadaire de tous les mercredis, bienvenue à nos collègues.